Qu'est-ce qu'on apprend en faisant ça? Qu'est-ce qu'on apprend en se mettant dans une situation d'intercompréhension où il y a six langues, par exemple, et où on va devoir faire ensemble un travail qui ensuite, de quel travail sera publié sur Internet? Ça veut dire possiblement lu par, je ne dis pas 2 milliards d'internautes, mais c'est le cas. Vous savez qu'aujourd'hui, il y avait 1 milliard 300 000 il y a deux ans, maintenant il y a déjà 2 milliards d'internautes. On n'est pas encore à la moitié de la population mondiale, mais c'est beaucoup. Donc, c'est une diffusion complètement différente. Voilà encore une grande différence avec un travail que vous rendez sur un papier à une seule personne, le prof, et qui vous corrige et qui vous le rend à vous. C'est complètement différent. D'abord, c'est fait en coaction. Vous avez entendu parler de la pédagogie coactionnelle, la perspective coactionnelle. C'est fait en coaction, puisqu'on travaille ensemble. Et ensuite, c'est diffusé dans la vraie vie. Donc, on n'est plus sur la même longueur d'onde qu'un enseignement traditionnel, qui, je vous rappelle, est dominant aujourd'hui. Il ne faut pas croire que parce qu'on vous parle des pédagogies machin et trucs, que la pédagogie traditionnelle et même traditionnaliste n'est pas dominante. Vous l'avez vécu en tant qu'étudiant et en tant qu'élève, et vous avez vu comment ça se passait. De temps en temps, il y a un fou qui veut faire des choses différentes, mais la grande majorité des enseignants restent hyper traditionnels quand même. Je ne rêve pas. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien d'abord, on apprend que lorsqu'on parle à un étranger qui ne parle pas votre langue et qui veut la comprendre, on ne va pas s'exprimer exactement de la même manière qu'avec un vieux copain avec lequel on emploie toutes sortes d'argots et d'expressions idiomatiques et avec lequel on parle entre ses dents. Et le mec, miraculeusement, il vous comprend toujours et vous le comprenez toujours. Ça veut dire que vous allez faire preuve de bonne volonté et vous allez quand même lui présenter une langue qu'il est capable de comprendre. Vous parlez doucement, vous n'employez pas d'expressions dont vous savez qu'il ne les connaîtra pas, mais vous parlez français quand même. Vous n'allez pas simplifier votre langue pour qu'il la comprenne mieux. D'accord? Vous parlez votre langue. Ça s'appelle la médiation, cette affaire. La médiation, en général, ça va jusqu'à la traduction, jusqu'à des trucs comme ça. Mais disons que vous lui facilitez le travail par un comportement médiateur, par un comportement qui fait preuve de bonne volonté. Alors lui, il fait la même chose, n'est-ce pas? Et donc, il s'ensuit une certaine convivialité entre vous. Parce que, si quelqu'un, en vous parlant, parle entre ses dents, ne facilite pas la vie, au bout d'un moment, vous vous engueulez avec lui. Mais s'il fait des efforts pour vous être agréable et pour vous plaire, il y a une convivialité qui s'installe en général. Donc, cette médiation, elle va plus loin que la partie linguistique, que la partie dénotée. Elle a aussi une profondeur. Et puis, il y a l'interaction qu'on apprend. Il est nécessaire d'apprendre l'interaction. Pourquoi ? Parce que vous, comme moi, parfois, vous choisissez de ne pas interagir dans la vie. Exemple, quelqu'un me raconte une histoire drôle, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais? Deux solutions, je ris. Deuxième, et donc, je n'ai pas compris, mais il croit que j'ai compris. Autre solution, je dis, mais alors là, écoute, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a de marrant? Là, j'interagis. C'est courageux de ma part. Donc, pour interagir, il faut souvent un certain courage. Par exemple, vous allez à une conférence ou n'importe quoi. Là, il n'y a pas grand monde qui a interagi. Si, il y en a une tout à l'heure qui a interagi. Mais vous auriez pu interagir pour diverses raisons. Il y en a plein. Alors, évidemment, après, vous me dites, si tout le monde interagit tout le temps, vous n'allez jamais y arriver. C'est vrai. Bon, mais là, on est là pour ça. Quand on est en situation d'apprentissage, en intercompréhension, on est là pour ça. Faut y aller. Faut poser des questions. Faut demander des reformulations. Faut interroger les gens et faut interroger les dictionnaires, les traducteurs, éventuellement, ce qu'on veut. Faut interagir avec le texte, avec les personnes, si on veut progresser. La base, encore une fois, c'est l'interaction. Quand il y a une demande de base, eh bien, apprenez d'abord l'interaction et on verra. Disciplinez-vous pour interagir. Et on verra si ça n'est pas une bonne base. C'est-à-dire quelque chose sur quoi on peut construire des progrès. Ensuite, on apprend le dialogue. Est-ce que vous croyez qu'il est nécessaire d'apprendre le dialogue? Oui, c'est une qualité humaine, le dialogue. C'est une grande, c'est une qualité aussi pour apprendre. On n'apprend jamais tout seul, il faut dialoguer, etc. La négociation, il va falloir négocier. Ça s'apprend, tout ça, et ça s'apprend dans ses pratiques. Et le travail de groupe, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre, puisque si un des grands défauts de l'éducation, c'est de vous isoler et de vous juger tout seul, et de vous donner un diplôme unique, etc. Effectivement, le travail de groupe, il disparaît derrière l'individualisation de votre formation. Mais dans la vie, c'est le contraire. Les entreprises d'une personne, j'en connais pas beaucoup. Ça existe, bien entendu. Certains artistes, tout ça. Mais dans la vie, c'est le contraire. Il faut travailler en groupe. On voit pas comment. Donc, on apprend ça au moins. Et si vous faites... Si la publication finale, dans l'exemple de Galanet, dépend de vous, vous êtes en quelque sorte responsable. Et si les progrès dans la langue française, dans la lecture de la langue française, dépendent des Brésiliens et autres Argentins, dépendent de vous, vous êtes en quelque sorte responsable. On vous met en quelque sorte dans la merde avec cette histoire. On vous dit, mais si vous faites rien, il ne se passera rien et il n'y aura rien et quoi. Alors faites-le parce que vous êtes responsable. Donc c'est un côté formateur, la responsabilité. Vous allez devoir échanger avec des gens. Faut être gentil, bien sûr. C'est pas toujours évident. Mais faut être gentil, c'est une formule un petit peu à la noix, c'est pas ce que je voulais dire. Mais faut arriver à quelque chose avec les gens. Donc, il va falloir faire ça. Ça s'appelle la socialisation ou la sociabilisation. Il n'y a pas beaucoup de différence pour moi. Peut-être que un sauvage, faut le sociabiliser. Et quelqu'un de normal, faut le socialiser. Mais, si vous voulez, il faut quand même... Arriver à avoir des relations entre êtres humains de langues et de cultures différentes, et ça c'est socialisant ou sociabilisant comme vous voulez. Donc on apprend ces choses en les faisant. Je ne dis pas qu'au départ vous ne les savez pas, et c'est là où c'est un peu délicat de dire aux gens vous savez rien, on va vous apprendre. Si, il y a des gens qui naturellement savent faire tout ça avec une grande élégance, d'autres beaucoup moins. Et au bout, si on le faisait, on peut le faire avec des publics plus jeunes, etc. Et on peut arriver donc à ce qu'il y ait certaines évidences avec ces publics plus jeunes. Et puis, donc, il y a une chose différente. Je vous ai dit, on va écrire quelque chose dont on est responsable. Et tout d'un coup, ça va être publié sur Internet. Et donc, on a intérêt à le faire bien. Est-ce que ça ne ressemble pas à la valorisation de l'expression? C'est-à-dire, c'est ce que permet le web 2.0 dont je parlerai la prochaine fois. Tout d'un coup, vous avez le droit de valoriser vos idées, de les exprimer, et que cette expression soit prise en compte et une certaine valeur, un certain affichage, c'est le mot, une diffusion, donc, c'est votre parole qui compte, elle est valorisée de cette manière. Bon. Ça, c'est pour les choses qu'on peut apprendre, n'est-ce pas? Maintenant, il faut avoir des objectifs. On est dans une situation très